L'information continue sur RFI avec le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Michael Ponge, bonjour.
Bonjour Gilles, merci. Les 9h10 à Washington. Britney Griner, monnaie d'échange, otage diplomatique selon certains. La basketteuse américaine a été condamnée hier en Russie à 9 ans de prison. Pedro Castillo, le président péruvien, empêché de se rendre en Colombie dimanche pour l'investiture de son nouvel homologue. On ira aussi aujourd'hui dans les montagnes du nord-ouest du Mexique, le Sinaloa, région gangrénée par les narcos, le trafic de drogue, sa violence qui va avec. C'est notre dossier du jour. Et puis des coupures d'eau en Guadeloupe, ce sera la une du journal de la première avec vous, Benoît Ferrand.
Des coupures d'eau récurrentes et interminables. Nous entendrons tout à l'heure les témoignages de deux habitantes des communes de Bémao et de Petit-Bourg.
À tout à l'heure, Benoît, dans une quinzaine de minutes. Et bienvenue à tous. C'est bouleversant, disent les coéquipières de B.G., Britney Griner, cette basketteuse américaine, double championne olympique, condamnée hier en Russie à 9 ans de prison après avoir été arrêtée à l'aéroport de Moscou avec du liquide de cigarette électronique à base de cannabis. Une condamnation à remettre évidemment dans le contexte de la guerre en Ukraine. Bonjour Guillaume Nodin.
Bonjour.
Correspondant de RFI à Washington, cela fait réagir bien sûr jusqu'au sommet de l'État.
Oui, et c'est la Maison-Blanche qui a été la première à réagir par communiqué publié immédiatement. Et si ce texte était déjà prêt, c'est que ce jugement sévère n'est pas une surprise. Pour Joe Biden, la peine de prison n'est qu'un rappel de ce que tout le monde savait déjà. La Russie détient Britney Griner abusivement. Il appelle à sa libération immédiate de manière à ce qu'elle puisse retrouver son épouse, ses proches, ses amis et ses coéquipières. Même condamnation de la part du secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui exprime ses inquiétudes sur le système judiciaire russe et son utilisation par le pouvoir du Kremlin pour obtenir des gains politiques. La commission des affaires étrangères du Sénat utilise le mot « otage » au sujet de Britney Griner. Et comme celle-ci est double championne olympique, le monde sportif est également mobilisé. Les ligues professionnelles féminines et masculines de basketball font part de leur soutien et de leur inquiétude.
Guillaume Nodin en ligne avec nous de Washington. Les États-Unis et la Russie qui se disent à présent prêts à discuter d'un échange de prisonniers. C'est par la diplomatie qu'elle rentrera, commente d'ailleurs Vanessa Niggard, l'entraîneuse de Britney Griner. On sait que l'administration Biden, dit-elle, va devoir prendre des décisions difficiles pour la ramener. Bonjour Arim Lipold.
Bonjour Michael. Bonjour à tous.
Une opinion partagée par la presse aujourd'hui.
Oui, maintenant que le procès est terminé, Joe Biden est confronté à un choix difficile, écrit le New York Times. Rester ferme sur sa proposition d'échanger Britney Griner et un autre Américain, Paul N. Whelan, ou adoucir l'offre d'une manière ou d'une autre. Quant au Kremlin, poursuit le journal, il peut utiliser les deux prisonniers comme un levier. Après tout, la Russie peut jouer sur le facteur temps. Il n'est pas obligé de résoudre les affaires rapidement. Pour un expert de la chaîne CNN, la lourdeur de la sentence n'est pas une surprise, étant donné l'absence de légitimité des procédures judiciaires russes. Tout cela relève du théâtre, écrit-il sur le site de CNN. Il n'y a jamais eu aucun doute sur ce qui allait se passer. Ce que Vladimir Poutine essaye de faire, c'est monter le prix de négociation de Mme Griner. Et d'après le New York Times, vous l'avez dit, Michael, les deux parties sont effectivement prêtes à entamer des discussions sur l'échange de prisonniers. C'est ce qu'ont fait savoir les ministres des Affaires étrangères russes et américains ce matin au d'une réunion à Phnom Penh au Cambodge.
On quitte Washington pour ainsi dire et on prend la direction du Texas, Arim, où se tient la CPAC, la grand-messe des ultra-conservateurs, où était hier invité le premier ministre hongrois, Viktor Orban.
We decided we don't need more genders, we need more rangers. Less drag queens and more Chuck Norris.
Moins de genre, plus de rangers, moindre drag queen et plus de Chuck Norris. C'est la petite phrase qui a été beaucoup commentée à Rim sur les réseaux sociaux.
Oui, et pour le Washington Post, ceux qui ont assisté à ce discours ont assisté à un Trump show à l'accent hongrois du discours de Viktor Orban. Le journal, le Washington Post, donc, a surtout retenu le fait que le dirigeant hongrois a présenté son pays et les États-Unis comme des alliés pour se défendre des ennemis communs. Alors, qui sont ces ennemis? Eh bien, les progressistes, les communistes, ceux qui croient dans la mondialisation et les fake news. Le Washington Post note aussi qu'Orban n'a pas réitéré ses propos controversés, mettant en garde l'Europe contre un mélange de races selon lui.
C'est une guerre culturelle. Nous devons revitaliser nos églises, nos familles, nos universités, nos institutions communautaires. Et pour cela, nous invitons, dit Viktor Orban, les conservateurs américains à nous soutenir, Arim.
Oui, et certaines personnes qui ont assisté au discours hier du chef du gouvernement hongrois ont d'ailleurs condamné sa prise de position il y a 2 semaines, justement, sur le mélange des races chez les républicains. Nous devons nous ouvrir aux Hispaniques, aux Asiatiques et ne pas rester un club de blancs, a expliqué par exemple une Texane dans le journal Politico.
RFI, la radio del mundo.
8h16 à Lima, au Pérou, où les déconvenues se multiplient encore et encore pour le président Castillo.
Le président qui fait objet de 5 enquêtes en fait en tout, pour corruption entre autres. Il s'est rendu hier au bureau du procureur de la République. Il était convoqué dans une affaire de trafic d'influence présumée. On l'accuse d'avoir demandé de l'argent à des responsables militaires en échange d'une promotion. C'est en une de Pérou 21. Le journal publie également la réaction du président. Il a préféré garder le silence devant le procureur, mais affirmé plus tard dans la presse qu'il ne faisait pas partie d'un réseau criminel et qu'il était innocent.
Sentiment que ne partage pas du tout le Congrès péruvien, qui est aux mains de l'opposition de droite. C'est bien que ce Parlement a décidé d'empêcher par un vote, on l'entend là, Pedro Castillo de se rendre en Colombie dimanche pour assister à la prise de fonction du président élu Gustavo Petro.
Oui, selon El Comercio, les parlementaires justifient leur décision de manière suivante, faisant l'objet de 5 enquêtes. Le président ne peut pas représenter le pays à l'extérieur et justement, à cause de ces enquêtes, il y a aussi un risque de fuite, disent les députés.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
On en parlait hier avec Franz Duval-Arim. La police nationale d'Haïti multiplie les actions face aux gangs. La preuve avec cette libération de 6 otages, dont un Français.
Oui, c'est en une du journal Le Nouvelliste. L'opération des forces de l'ordre a été menée à Guédon, Croix des Bouquets, dans le fief du gang 400 Marozo. Le Nouvelliste souligne qu'il est effectivement très rare que la police nationale réalise ce genre d'intervention dans un quartier contrôlé par des gangs pour libérer des otages.
À lire aussi dans la presse haïtienne le métier de routier qui séduit de plus en plus les immigrés haïtiens aux États-Unis.
Et tout à fait immigrants et immigrantes d'ailleurs. Le site Ayobo Post publie le portrait d'une de ces haïtiennes qui sillonne les routes nord-américaines au volant d'un poids lourd. Elle s'appelle Tarly, vit aux États-Unis depuis 5 ans. À l'origine, elle rêvait de devenir créatrice de mode, mais aujourd'hui, la jeune femme de 32 ans est une conductrice de camion à temps plein, partageant les conseils sur un réseau social pour ceux qui cherchent à embrasser la profession, écrit Ayobo Post. Travaillant en moyenne 11 jours par jour, elle gagne 1000 dollars.
11 heures par jour.
11 heures par jour, tout à fait, oui, sinon ça serait compliqué. Elle gagne 1000 dollars par semaine, dit-elle. Le secteur, écrit Ayobo Post, est en pleine mutation à cause de l'arrivée des camions électriques, mais aussi dans quelques années autonomes. Un secteur dangereux avec un taux de mortalité accidentelle élevé, mais un secteur qui est aussi en pleine expansion, par exemple en Floride, où résident de nombreux Haïtiens.
Et c'est à lire donc sur le toujours très intéressant ayiboposte.com. Merci beaucoup pour la presse, Arim Lipold. Plongeons à présent dans le royaume des narcos. Je vous emmène dans le Sinaloa, au nord-ouest du Mexique, région montagneuse réputée pour être le berceau des plus grands narcotrafiquants du pays. Comment vit-on quand on est un habitant de cette zone? Pour le savoir, l'anthropologue Adel Blasquez s'est rendu dans le village de Badiraguato en 2014-2015, à un moment où une grande partie des habitants vivaient toujours de la production d'opium. Elle en a tiré un livre, ça s'appelle « L'aube s'est levée sur un mort ». Elle est au micro de Christophe Paget.
Adel Blasquez, bonjour.
Bonjour.
À Badiraguato, il y a cette menace bien réelle de la violence des narcotrafiquants qui pèse sur tous les habitants. Du coup, pour y échapper, ils sont dans une analyse constante de la situation, une recherche constante d'informations.
C'est un quotidien qui est toujours parsemé de la possibilité, en fait, de la menace qui amène les habitants au quotidien à échanger avec leurs voisins, avec leurs proches, avec leurs moins proches, pour essayer de connaître l'état des relations entre les groupes armés qui évoluent autour de leur village. Tout d'un coup, un conflit entre un groupe armé bien implanté dans un hameau éclate avec un groupe armé qui est implanté dans un autre hameau. Et les habitants, les personnes qui, pour une raison ou une autre, notamment quand ils habitent dans la montagne, ils doivent se rendre au chef-lieu, à l'endroit où sont situés tous les services. Tout d'un coup, des conflits comme ça empêchent les habitants de se déplacer. C'est aussi le cas de l'armée qui parsème sans arrêt le territoire, qui réprime la production de pavots. Le côté très aléatoire, en fait, de la violence empêche de nombreuses pratiques qui nous paraissent élémentaires et des plus anodines, comme le fait de se déplacer.
C'est un mot que vous n'utilisez pas dans le livre, mais on a l'impression que les habitants sont toujours dans le déni. Ils vous disent « ici, c'est calme », alors que clairement, ça ne l'est pas du tout.
Je pense que j'ai rarement entendu, autant qu'à Badiraguato, des personnes insister sur le fait que leur lieu de vie et que leur village étaient particulièrement tranquilles. Ou alors, quand il s'agissait de parler de la violence, en me disant « finalement, il y a de la violence comme partout, donc pas plus ici chez nous que dans le reste du monde ». Sans que ça veuille dire qu'ils y croient forcément, mais qu'en tout cas, il y a une nécessité de le dire. C'est pour ça que je me garde de parler de déni. Accepter un quotidien aussi incertain et aussi menacé, ben on a besoin de passer par différentes manières en fait, de s'en sortir, de l'accepter, mais aussi à Badiraguato et plus largement au Mexique, il y a un mécanisme très important de responsabilisation des victimes dans leur mort. En fait. Quand quelqu'un est mort, une phrase les plus récurrentes consiste à dire ben, « il a bien été tué pour quelque chose ». Et donc dire que finalement, il n'y a que les personnes qui mettent leur nez dans ce qui ne les concerne pas ou qui trempent dans des affaires pas claires, dire que nous, on n'est pas affectés, c'est dire que nous, on se comporte d'une manière qui, a priori, nous protège de la violence. Et donc, c'est une manière de se positionner, en fait, aussi vis-à-vis des gens avec lesquels on parle.
Vous parlez aussi de stratégie d'évitement. Dans la gestion même du village, de nombreux programmes sont mis en place par la mairie, mais en fait, ils ne sont jamais en rapport direct, en tout cas on ne nomme pas le narcotrafic.
Le quotidien est marqué par des morts à l'aube, par des disparitions entières de hameaux, par des attaques de hameaux, par des accaparements de terres réguliers, des enlèvements de femmes. Et je n'observe pas tant un rapport très fort entre cette violence et le quotidien de la mairie, mais au contraire, la production d'un rythme complètement indépendant et dans le cadre de la politique institutionnelle, il n'est jamais question ni du narcotrafic, ni même de la violence organisée, y compris dans le cadre d'une campagne de désarmement qui est un programme fédéral que la mairie doit appliquer. Même dans ce cas-là, les responsables locaux ne vont jamais nommer la violence, mais plutôt parler d'accidents domestiques. Je l'analyse comme une manière de sécuriser et de stabiliser le domaine de la politique institutionnelle comme séparé de tout le reste, de tout ce qui fait le contexte social, économique, la violence.
Justement, un des chapitres s'intitule « Voler une femme ». Qu'est-ce que ça recouvre ?
Les personnes peuvent utiliser cette expression à la fois pour parler d'une union consentie ou d'une fuite d'amant pour éviter les frais du mariage ou pour des cas d'enlèvement violent. C'est le cas notamment d'une situation dont j'ai pu être indirectement témoin pendant mon enquête, où une jeune femme se fait enlever par 6 hommes armés, puis violée, qui parvient finalement à s'échapper. Et après plusieurs mois, je vois que les voisins le qualifient comme une querelle de couple. Et donc, en étudiant ce terme de voler une femme, j'ai pu montrer comment les rapports de genre, même les plus anodins, pouvaient avoir des airs de famille, des choses à voir avec des rapports de genre extrêmement violents.
Vous expliquez aussi que les habitants, ceux qui le plus souvent cultivent la coca, sont pris dans un système purement capitaliste.
Souvent, ces situations de Badiraguato, base du cartel, berceau du narcotrafic, on les envisage toujours à l'aune de la participation à une activité criminelle. Et en m'intéressant aux familles de producteurs de pavots, ils apparaissent en fait un petit peu comme des sous-traitants Uber, on pourrait dire. En fait, eux sont uniquement des paysans qui récoltent la gomme de pavot, mais les opérations qui permettent d'engranger de l'argent, c'est le transport et la transformation du pavot en héroïne. Or, pour pouvoir transporter et transformer, il faut, outre souvent de la main-d'œuvre armée, des véhicules, mais il faut aussi, et en grande partie, des accords avec l'armée. Or, les petits producteurs, eux, n'ont pas la possibilité de passer ces accords. Donc, eux, ils sont soumis au quotidien à la répression des militaires qui détruisent des parcelles ou qui peuvent extorquer un petit peu d'argent en échange d'un petit bout de parcelle qui serait préservé. Donc, ils vivent une économie extrêmement incertaine. tandis que les intermédiaires qui, eux, ont bénéficié de ces accords en haut lieu avec l'armée, non seulement ils ont leurs propres parcelles qui, elles, sont très grandes, sur lesquelles ils embauchent des ouvriers agricoles pour la récolte, mais en plus, ils peuvent acheter, en fait, à des producteurs captifs leur récolte à un prix qu'ils peuvent imposer. La répression militaire de l'État mexicain fait, en fait, des producteurs captifs et soumis à la répression, permettant l'accumulation prédatrice des intermédiaires les plus importants.
Malgré toutes les stratégies d'évitement dont on parlait, les habitants de Badiraguato essaient de partir ou de faire en sorte que leurs enfants quittent le village.
C'est une commune qui a perdu près de 30% de sa population en 20 ans. Oui, évidemment, dans un contexte pareil, à la fois par l'absence d'autres opportunités économiques que la production de pavots dans la montagne, par la prégnance de la violence, beaucoup de personnes partent, mais beaucoup de personnes avec lesquelles moi j'ai pu travailler veulent rester en fait dans leur montagne natale où ils ont tout leur entourage familial, des jeunes gens qui essayent de s'installer, et bien le fait de partir, ça veut dire se priver de l'aide et du soutien affectif et matériel de leurs parents, de leurs tantes, de toute leur famille élargie. Et donc beaucoup de personnes tâchent encore de vivre dans ces montagnes en dépit des nombreuses menaces avec lesquelles ils vivent. Et donc, on retrouve ce dont on parlait tout à l'heure, aussi la nécessité de dire que quelque part, il n'y a pas plus de violence qu'ailleurs, parce qu'on veut aussi justifier et se convaincre soi-même des choix qu'on fait.
Adèle Blasquez, merci.
Merci à vous.
L'aube s'est levée sur un mort d'Adèle Blasquez aux éditions du CNRS. Interview signée Christophe Paget.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec vous, Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour, Mickaël.
On est en Guadeloupe avec toujours et encore des problèmes de desserte en eau. De nombreux habitants se plaignent des coupures pouvant durer plusieurs jours.
Des coupures récurrentes et interminables. C'est notamment le cas dans les communes de Bémao et de Petit-Bourg, où certains affirment ne pas avoir d'eau au robinet 2 à 5 jours par semaine. Écoutez ces témoignages recueillis par Chantal Horn.
La situation est insupportable. J'ai des enfants, je n'arrive plus à gérer cette situation depuis quelques mois. Je n'en peux plus, madame, c'est atroce. Le secteur Café Bellecour, avec des coupures d'eau assez régulières, je n'en peux plus.
À cette période de l'année, nous avons des vacanciers à la maison. On a les enfants qui sont là. Donc les miens réagissent assez bien. Dès qu'il y a de l'eau qui revient au robinet, donc ils vont remplir les bouteilles d'eau. Pour faire à manger, c'est compliqué parce qu'on fait avec de l'eau filtrée, nous. Donc on achète chance d'avoir de l'eau filtrée. J'ai des citernes, mais bon, c'est des citernes d'eau de puits qu'on utilise pour les WC. Donc, c'est compliqué à gérer avec les enfants à la maison pendant une période de vacances. Parce qu'on est en temps de Covid, il n'y a pas de l'eau courante, on ne peut pas se doucher correctement. Donc, je trouve que c'est très problématique de ne pas avoir de l'eau courante au 21e siècle, on va dire. Alors, nous avons les informations surtout 2 jours après, des fois. Par exemple, la coupure actuelle, j'ai regardé sur le site Facebook. J'ai vu l'information ce matin, et sachant que l'eau est découpée depuis mardi matin. Donc, il y a un décalage entre l'information et l'action.
Direction maintenant la Martinique avec ces vidéos qui circulent sur les réseaux qualifiés de sociaux, vidéos de plus en plus nombreuses où l'on voit des jeunes brandir fièrement des armes à feu. Claude Gracien.
Un groupe de jeunes, certains, joints à la bouche, ils exhibent des armes qui font froid dans le dos, fusil automatique, pistolet avec silencieux ou chargeur camembert, visée laser. Ce type de vidéo n'est pas une nouveauté, mais en cette période de vacances et de rassemblements festifs ou de soirées, on en voit un peu plus circuler. Bien entendu, tout cela n'échappe pas à la vigilance du parquet. La procureure Clarisse Taron est claire, ce genre de choses est interdit par la loi et en la matière, c'est la tolérance zéro qui est appliquée. Il faut savoir que les enquêteurs se forment et les nouvelles techniques permettent de plus en plus aux recherches d'aboutir. Le général Vaquette, commandant des gendarmes de Martinique.
Depuis que je suis arrivé l'année dernière, nous avons créé une cellule empreinte numérique qui travaille effectivement sur l'ensemble de ces vidéos qui circulent.
Ceux qui se livrent à ce genre de choses risquent, suivant la nature, la catégorie des armes qu'ils brandissent, jusqu'à 10 ans de prison. Les autorités ici disent se montrer particulièrement attentives, car dans les services concernés, les affaires d'armes dont il faut s'occuper, brandies pour menacer ou utilisées pour agresser, arrivent une fois tous les 2 jours sur les bureaux.
Bon après-midi, bon week-end, Mickaël. À lundi.
Merci beaucoup Benoît Ferrand, à vous et aux équipes de La Première. Merci à Hélène Avril qui était à la réalisation aujourd'hui de ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques. J'ai besoin de vacances, ça tombe bien, je ne serai pas là la semaine prochaine. Je vous laisse entre les mains expertes de Marion Cazeneuve. Prenez soin de vous et on se retrouve dans un peu plus d'une semaine sur RFI.